son clin d'œil.
C'est le canut info.
Ah,
ah je ne savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, contre la polémie et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'un mille infos.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez tout. Canu info du vendredi. Bonsoir, il est 19h03, vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Et c'est un Canu Info du vendredi un peu spécial puisqu'une bonne partie de l'équipe est partie en long week-end dans le budget. Et étant donné qu'on est une équipe restreinte et un peu feignante ce soir, on a préparé que très peu d'informations, toutes fraîches, mais par ailleurs, on a déterré beaucoup de documentaires. Alors, je vous détaille ça. On va commencer en traitant d'au moins une information, en revenant notamment sur les attaques ciblées, reprises notamment par une certaine presse et notamment Marianne, attaques qui ont touché le planning familial de Marseille. On vous parlera également des mineurs isolés de la Grande Côte à Croix-Rousse. Et puis ensuite, on ira vers nos archives. On vous parlera également du quartier de Croix-Rousse, des épiciers, d'un épicier à côté qui vit et qui a surtout son commerce à côté de la radio et qui est un petit peu bousculé par les grandes chaînes qui s'installent aux abords, les grandes chaînes de magasins. Et on enchaînera sur un sujet tout à fait différent puisqu'on vous diffusera un petit documentaire qu'on avait passé il y a peut-être 2 ans sur les lois abolitionnistes en matière de prostitution et leurs conséquences sociales et territoriales, notamment à Lyon mais plus globalement en France. Et puis on terminera l'émission avec un doc sur les gaz lacrymogènes et ce que l'on sait de leur nocivité.
Canu Info.
Et invisible et disponible, libre et irréductible.
Attendu féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info.
Et donc, dans le Canu Info du vendredi, on m'entend pas si? On m'entend? Ah oui, alors moi je m'entends pas du tout. Du coup, je reviens sur, comme on vous le disait tout à l'heure, des fausses accusations qui ont eu lieu contre le planning familial de Marseille. C'était le 23 septembre et c'est le journal Marianne, comme on vous le disait, qui publiait un article au titre un peu flippant. Un planning familial ramène le port du voile à un signe de modestie et refuse de condamner l'excision. De quoi se poser des questions. Et donc le planning en question, c'est celui de Marseille. C'est sous la plume d'un certain Adrien Matou, journaliste hors pair, vous le verrez, que le journal Marianne relaie des accusations sans fondement contre le planning des Bouches-du-Rhône, qui se voit dans le plus grand sérieux reprocher une complaisance envers les excisions. L'article se termine par un tableau catastrophique de mouvements sociaux qui subiraient un entrisme islamiste ou indigéniste. L'article se fonde sur une source unique, un post Facebook d'un certain Naem Bestanji, qui se présente comme militant laïque et féministe. Gros travail de journaliste donc, Adrien Matou n'a pas interrogé le planning sur les accusations qu'il relaie. Le point de vue de l'association est représenté que par des messages sur les réseaux sociaux ou sur le site internet donc, du planning qui est délibérément choisi, en tout cas ses positions sont délibérément choisies pour servir le propos que Adrien Matou veut porter dans Marianne. Alors le poste dont il est question, auquel réagit le fameux Naem Bestanji, c'est quatre visuels d'une campagne anglo-saxonne qui montrent respectivement une femme en sous-vêtements, plutôt forte, assise en tailleur avec un message en anglais qui dit « La nudité renforce le pouvoir de certaines femmes ». Une femme à côté qui porte un voile et qui parle au téléphone avec le message « La modestie renforce le pouvoir de certaines femmes ». Un message ensuite qui indique différentes choses renforcent le pouvoir de différentes femmes et un message, un dernier message final qui dit le féminisme et leur droit de choisir. Le 22 septembre, donc, ce visuel inspire aux militants féministes et laïques Naem Bestanji les analyses suivantes. Mettre sur le même plan la nudité et le voile est bien un raisonnement d'islamistes obsédés par leur libido. Or, rien dans la campagne relayée par le planning ne fait référence au désir sexuel des hommes, puisqu'il n'y est question que du choix des femmes dans ce qui leur donne du pouvoir à elles. L'introduction de la libido est donc un peu gênante. Est-ce la seule présence de nudité féminine qui déclenche ce réflexe chez le militant féministe et laïque ? La campagne, elle, vise précisément à valoriser des formes différentes d'assumer son corps et sa tenue face au regard des hommes. Ce que Naem Bestanji nous propose, ce n'est pas du féminisme, c'est la base du machisme. Et c'est donc cette unique source qu'Adrien Matou reprend pour défoncer le planning. Alors le fameux Naem, il va aussi assez fort, hein, il dit « Certains plannings de province abandonnent progressivement leurs valeurs historiques pour se rapprocher des valeurs de l'intégrisme musulman ». Adrien Matou reprend sans sourciller l'accusation. Lui, il dit « Le planning familial, association d'éducation populaire, historiquement féministe et laïque, se rapprocherait-il des valeurs de l'intégrisme musulman dans les Bouches-du-Rhône ?» À première vue, l'accusation du militant laïque et féministe Naem a de quoi surprendre. Pourtant, les contenus de communication postés sur le compte Facebook du Planning Familial 13 sèment le trouble. Voilà ce que nous dit Adrien Matou dans son article sur Marianne. Alors pour préciser, la veille même de la publication de l'article de Marianne, le planning familial de Marseille relayait sur sa page Facebook un article de Elle consacré au règlement intérieur sexiste qui interdit aux filles de porter des shorts sous prétexte que cela exciterait les garçons. Adrien Matou pourrait peut-être nous expliquer le rapprochement progressif avec l'intégrisme musulman ici. Le 20 septembre, c'était une vidéo de témoignage d'une personne trans, dont le lien avec Daesh nous échappe aussi. Et dans les jours qui précèdent, c'était une photo « My pussy, my choice »,« Ma chatte, mon choix », le relais d'une pétition pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants intersexes, des témoignages sur le harcèlement, etc. Voilà aussi pour l'intégrisme musulman du planning de Marseille. Adrien Matou n'a aucun scrupule à prendre pour argent comptant donc ses discours grotesques, il ne les vérifie pas. Il reprend mot pour mot une analyse pseudo-sociologique puisqu'il nous dit dans son poste, Naem Bestanji précise que toutes les militantes et salariées du planning ne sont pas d'accord avec cette dérive et indique qu'il existerait une lutte interne entre, pour faire simple, les anciennes et les plus jeunes bercées au discours islamiste et indigéniste. Rien que ça, et donc ce fameux journaliste écrit bien pour faire simple, voilà. Donc oui, on peut faire simple en effet et pas réfléchir à plus loin que ce qu'on peut voir sur des posts Facebook. Alors l'accusation la plus grotesque, c'est aussi celle de la complaisance envers l'excision, alors que même quelques jours plus tôt, le planning dénonçait d'autres mutilations sexuelles, celles exercées en France, par exemple par des médecins français contre les enfants intersexes. Suite à ce poste-là, donc je vous parlais, les quatre vignettes, une personne demande au planning, donc vous défendez aussi les femmes qui militent pour donner une bonne image de l'excision. Allez savoir ce que ça fait là. La réponse du planning, c'est de manière un peu large, qui dit, comme déjà dit, on milite pour le libre choix de chacun chacune et que nous puissions chacune faire ce que nous voulons de notre corps sans projeter nos choix sur les autres. Et donc là, le journaliste se déchaîne et nous dit « Le planning familial des Bouches-du-Rhône refuse ici de condamner explicitement l'excision ou la promotion de cette pratique. » une accusation grave est donc portée sur la base d'un seul argument, le refus de répondre à une question faussement provocatrice. Alors qu'on pourrait quand même imaginer d'autres hypothèses que la complaisance envers l'excision et le rapprochement avec les valeurs de l'intégrisme musulman. Par exemple, le refus de tomber dans le piège grossier d'une personne qui fait exprès de poser cette question pour les embêter. L'idée que les positions et les combats du planning sont connus et n'ont pas forcément besoin d'être réexpliqués tout le temps. L'idée que la condamnation de l'excision découle du principe de libre choix défendu dans la réponse. Alors pour finir, je cite le planning familial 13 qui a réagi et publié un communiqué de presse le 23 septembre qui nous dit « Le planning familial 13, membre de la Confédération nationale du planning familial, est un acteur inconditionnel de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Il agit depuis toujours et au quotidien pour défendre l'intégrité physique des femmes dans ses accueils individuels et lors de toutes ses interventions. » Il est engagé contre les mutilations sexuelles que peuvent subir toutes les femmes, et cela quelle que soit leur origine ou leur religion. Il a depuis toujours participé à la lutte contre toutes les formes de violences sexuelles et contre les mariages forcés, avec de nombreux partenaires locaux. Le Planning Familial 13 est un mouvement féministe et d'éducation populaire. Il lutte contre toutes les formes d'exclusion et d'inégalité sociale, avec pour objectif l'égal accès de toutes les personnes aux mêmes droits, à la santé sexuelle, à l'autonomie et à l'émancipation. Les lieux d'accueil Planning Familial 13 sont ouverts à toutes les femmes, sans discrimination, sans distinction et sans jugement.
Merci. Et sans transition aucune, on va rappeler ce qui s'est passé dans les Pentes mardi 25 septembre au petit matin. Les mineurs isolés étrangers qui sont installés sous des tentes dans un jardin proche de la montée de la Grande Côte ont tous été contrôlés, donc c'était mardi 25 septembre au petit matin. Ils vivent dans ce jardin de la montée de la Grande Côte depuis des semaines sous des tentes, et donc c'est un grand déploiement policier qui a été ordonné cette semaine. Je vais vous relire, ou lire plutôt, le communiqué du collectif de soutien aux mineurs isolés étrangers, ou en tout cas une partie de ce communiqué. Face à la situation indigne à laquelle ils sont soumis par la métropole, un collectif d'habitants se mobilise depuis plusieurs mois pour les accompagner dans leur lutte à faire reconnaître leurs droits. Le plus grand flou entoure encore l'exécution du référé d'expulsion du terrain sur lequel ils ont trouvé un refuge précaire. Ce que la loi prévoit pour eux normalement. Eh bien, la loi française prévoit, concernant les mineurs isolés étrangers, que pendant 5 ans, leur mise à l'abri au cours de laquelle la minorité des enfants doit être établie dans le cadre d'entretien individuel. Une fois sa minorité reconnue, le mineur relève de la protection de l'enfance qui a pour obligation son hébergement, son suivi médical, sa scolarisation. À l'issue de ces entretiens, qui dans le meilleur des cas durent moins de 2 heures, nombre de jeunes ne sont pas reconnus dans leur minorité, et cela sur des critères arbitraires, subjectifs, discriminatoires. Et quand ils sont reconnus mineurs, ils sont souvent envoyés à l'hôtel sans suivi éducatif. Face à la défaillance indigne des autorités compétentes, un collectif d'habitants s'est mobilisé depuis plusieurs mois. Le service de forum réfugiés mandaté par la métropole pour effectuer ces entretiens est situé sur les pentes de la Croix-Rousse, juste en dessous donc de là où dorment ces mineurs isolés. Chaque jour, des mineurs s'y retrouvent dans l'attente d'un rendez-vous, ou du résultat de leur entretien. À ce jour, une cinquantaine de jeunes vivent dans la précarité d'un hébergement sous tente dans le jardin des Petits Soyeux et sous la menace d'une évacuation. Alors que ces mineurs sont dans une grande vulnérabilité qui exige la protection inconditionnelle des services publics, la métropole fait preuve d'acharnement en ayant déposé un référé d'expulsion du terrain sur lequel ils ont trouvé un refuge précaire. Mardi 25 septembre 2018, donc, un contrôle de police qui regroupait la PAF, la BAC, la police nationale, la police municipale, a eu lieu à 7h30 du matin. Une trentaine de policiers ont tenu à l'écart les habitants et habitantes alertés afin d'effectuer un relevé d'identité des mineurs présents ce jour-là. En ignorant la loi, la métropole se met hors la loi et se rend coupable de non-assistance à personne en danger. On vous en reparle bientôt.
brushed my hair, went downstairs, favorite jeans on my rear, and I looked up in my mirror, and I said, who's that there, who's that there, in that mirror, I don't care, and they're aware, now I see just why they stare, I just paid them, I don't care, I know, so what, I got an attitude, bitch, I got an attitude, so what, I got an attitude. Bitch, I gotta, I don't sleep, I don't snore. Too much money out that door. On my way to go to work. Bills to pay, so hit that dirt. Change up plans, then Juvenile came on. You know that's my favorite song. I was 15 minutes late. Because I try to be great, dancing on my feet. Your opinion not today. They said, what's it gonna take? I said, I want a bigger plate. So that lady poured my drink. Then I went up on my right. I could see the bitch was fake. So like Chapo, I escaped. And I told that hoe, no. Like my ex, you got to go. I want all my money up front. If you don't, guess what? I'm gonna have an attitude. Bitch, I got an attitude. I'm gonna have an attitude. Bitch, I got an attitude. So what, I got an attitude. Bitch, I got an attitude. So what, I got an attitude. Bitch, I got an attitude. Attitude, 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 attitude. When they ask me where I've been, busy. When they ask me where I live, the city. I don't own a welcome mat. Give me the proper feet and stand back. I don't own a welcome mat. Give me the proper feet and stand back. Attitude, 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 Dandridge, attitude, Grace Jones, attitude, pay rent, attitude, or own home. Attitude. Buffy Khan. Attitude. Champagne. Attitude. Khaleesi's gone. Attitude. So it's Beyonce. Attitude. Khaleesi's gone. Attitude. So it's Beyonce. Attitude. Attitude. Khaleesi's gone. Attitude. So it's Beyonce. Attitude. Attitude. Khaleesi's gone. Attitude. So it's Beyonce. Attitude. 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 Khaleesi's gone. Attitude. So it's Lakayla. Attitude. Attitude. So what, I got an attitude. Bitch, I got an attitude. So what, I got an attitude. Bitch, I got an attitude. So what, I got an attitude. Bitch, I got an attitude. So what, I got an attitude. Bitch, 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 I got an attitude.
Et tout de suite, on va lancer une suite de reportages. Le premier a été tourné dans les pentes de la Croix-Rousse. Et on retrouve Walid, un épicier qui a sa boutique juste à côté de Radio Canu.
L'épicerie ici, le premier qui a été ouvert, c'était en 1947. Ça s'appelait au Bondelet, c'était juste après la gare, deuxième gare. Et les gens, ils venaient bon, pour là, tout ce qui est fromage, crèmerie, tout ça. Et puis petit à petit ça a changé dans les autres chaînes. Et puis dans les années 90, je crois, fin 80, il y avait la chaîne Express. Suite à ça, il y a eu des familles tunisiennes qui sont spécialisées dans tout ce qui est alimentation générale, c'est eux qui ont pris. Et puis ça a continué en 95. Le propriétaire actuel des murs, c'est lui qui était là pour quelques années. Et puis il a vendu juste le fond à un autre monsieur aussi de Tunisie, je crois. Et puis ça a été revendu à monsieur Kamel qui était juste avant moi.
Radio Canu !
Reportage.
Je m'appelle Walid, 44 ans. Je suis installé ici depuis 2011 pour l'épicerie. Panier sympa. 10 rue Touré, rue Bouteille. Tout le monde l'appelle l'épicerie de rue Bouteille parce que rue Bouteille est beaucoup plus connue que Touré. Et puis c'est Bouteille, alors on vient ici pour les bouteilles. Moi, avant, j'ouvrais très tôt, à 7h30, 8h. Et petit à petit, j'ai vu que ça n'allait pas la peine parce que je travaillais tard le soir. Et sur ce contexte-là, je dirais, je commence vers 10h, mais juste de 10h à midi, c'est quelques clients, les élèves qui sortent à 11h, bon, les parents qui prennent des petits gâteaux, des choses. À 11h, après, jusqu'à, de 11h, enfin, jusqu'à 1h, j'ai des clients, des réguliers okay, qui viennent pour leur petit beurre. Et après, ça se calme comme ça. Il y a un ou deux par-ci, par-là, et ça recommence vers 17h, 17h30. Et ça va jusqu'au 20h, 21h. Bon, ça tourne. Et puis ça se calme, et puis c'est les groupes. Ici, la rue de Bouteille, ou ce petit quartier, je dirais, je l'appelle un petit village dans, au centre-ville, quoi. Parce que, et cet esprit, j'ai essayé de le développer beaucoup depuis ces années que je suis là, entre les gens, pour dire que c'est un petit village, que tout le monde doit se connaître, pour que tout le monde... Et le magasin reste, c'est vrai que le magasin reste un peu le point de ce passage et de ce contact.
Il y a aussi, j'imagine, toute la clientèle de nuit qui vient beaucoup chercher de la bière.
Oui, notamment vos copains. Si vous voulez. Mais c'est vrai que la Radio Canu a été toujours un bon client ici, les membres. Et oui, il y a la clientèle. Nous, si on ne vend pas l'alcool, on est foutu. C'est vrai que la nuit, le soir, à partir de 18h, les étudiants, les gens qui finissent leur boulot, ils viennent prendre leur petite bière. L'intensité de vendre l'alcool, oui, c'est vrai que c'est important. Bon, après, les week-ends, c'est beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on est ouvert jusqu'à 1h du matin, le vendredi et le samedi. Pour récupérer aussi un peu la semaine, parce que la semaine c'est calme. À partir de 23h, même je dirais 21h30, 22h, mais moi je reste toujours ouvert jusqu'à 23h. Surface qui sont venus chercher le cadre en centre-ville. Les cadres qui étaient nos clients, nous les petits, le petit magasin de quartier. Et quand eux, ben, ils sont venus, pour, est-ce qu'il n'y a pas un plan arrière pour nous faire disparaître? Je sais pas. C'est toujours comme j'avais fait une lettre il y a un an et demi, je vais vous mettre la copie. J'avais donné à monsieur, madame la maire, j'avais mis partout dans le quartier. On est en train de se confronter sur le pot de fer contre le pot de terre. Quoi. Voilà, on ne peut pas leur battre, mais eux, ils arrivent agressivement. Regardez le service, la chaîne de casino, ils sont là tous les 300 mètres, 400 mètres. Et Franprix, c'est casino, Monop, c'est casino, Casino Shop, c'est casino, Maréchal, c'est casino. Et donc, nous, on n'a pas à respirer, quoi. C'est comme s'il faut qu'on soit éliminé totalement. Nous, je ne peux pas venir à 9h de soir ou à 10h de soir pour travailler jusqu'à 6h. Premièrement, vendre l'alcool, c'est interdit le soir, bon, par rapport à ce qu'on a évoqué. Et deuxièmement, j'ai une vie de famille avec 3 enfants. Je suis tout seul, ma femme est décédée. Alors, vous voyez, toutes ces difficultés, on ne peut pas... Enfin, je sais que mes problèmes ne sont pas les problèmes des autres. J'évoque juste par rapport à ma situation. Mais... l'agressivité des grosses économies comme le groupe connu Casino ou autre qui viennent ici pour nous détruire, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est la gare commerciale? Oui, moi je suis d'accord, mais nous on ne peut pas se comparer avec eux. Jamais on peut, moi je ne serai jamais dans la position de m'abattre contre Carrefour ou Casino ou Monop ou autre, quoi. C'est pas possible. Et les grandes surfaces, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont venus en ville pour chercher la clientèle. Parce que de ville, moi, le gars qui se gare ici avec sa voiture, il ne va pas la déplacer pour les semaines pour aller jusqu'au Auchan, au Carrefour, hors de ville. Parce qu'il va par cette place, il ne peut pas trouver le parking, c'est le cauchemar. Ou bien les drives qui sont arrivés maintenant. Ils appellent à 50 euros, le camion arrête toutes les soirs devant chez moi, de Carrefour et d'Auchan et machin, pour qu'ils soient livrés avec les cartons. Tout à fait, je dis encore, nous, on n'est pas là. Moi, je demande pas que les gens viennent faire leurs courses chez moi. C'est pas possible. Parce que je suis à 1000 ou 2000 articles de produits, alors que Carrefour, c'est 50 000, 60 000. Ça je dis pas le contraire. Par contre, eux, ils nous ont même pas laissé cette possibilité de dépannage qu'on est censé être. En anglais, convenience store, on doit être pour le, se faciliter pour les gens qu'on peut donner, c'est aussi prise quoi, par eux. Et ça, bon, je ne peux pas changer ni la mentalité des gens, ni la grande surface. Quoi, c'est... de quartier qui, s'ils veulent que les petits commerces comme nous vivent plus longtemps et puis dans la humanité des choses, il faut se servir un peu plus chez nous, quoi, je dirais. Sans dire que bon, j'y vais certainement chez Franprix parce que la salade qui est chez Panier Sympa est à 3,90 alors que là-bas, je peux l'avoir à 3,50. Par exemple. Je dis aussi que bon, dans le quartier, le pouvoir d'achat, il n'est pas aussi mal. Et on est à Lyon Premier. Et puis je crois qu'on a des cadres. Je vous dis, j'avais des clients là, très hautement placés. Et j'ai aussi des gens. Après, il y a des histoires de crédit, des choses qui. Je pars du bout pas mal aussi. Donc, je réduis beaucoup. Mais je connais, il y a des gens qui ont besoin aussi, mais je me dis franchement, même la SDF, le clocheur qui passe, qui a besoin de boire une bière et qui n'a pas d'argent, et il me demande, ça m'a fait mal de ne pas lui laisser. Et souvent, ces gens-là, ils reviennent payer. Mais c'est leur besoin, comme vous et moi, on doit manger. Alors, et s'il ne boit pas, peut-être qu'il est mal, alors je donne une canette ou des jambons, des choses comme ça, s'il voit ça. Puis il y a des familles qui vivent sur la Chartreuse, l'autre côté, sur rue Fernandré, un peu bloqué, qui sont des autres origines, qui sont émigrés ici en France, et puis ils ont des difficultés à vivre, ils ont des petits gamins. Bon, quand ils arrivent, je leur donne des choses, des repas, des...
Canu Info du vendredi.
Canu Info un petit peu particulier cette semaine parce que presque toute l'équipe est partie dans le budget pour un week-end de partage de connaissances et aussi pour faire des investigations, des reportages sur les luttes bugésiennes actuelles. Du coup, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est pas mal de rediffusions de reportages. Et là, on va écouter un reportage sur la prostitution. Parce qu'on vous parlait il y a quelques mois des conséquences de la loi du 13 mars 2016 sur la pénalisation des clients et surtout de la dégradation considérable des conditions d'exercice pour les travailleurs et travailleuses du sexe que ça a entraîné. Et du coup, ça donne des personnes qui sont de plus en plus exposées aux agressions, à la précarité, aux maladies sexuellement transmissibles, sans pour autant que la traite et l'exploitation n'aient réellement diminué. Du coup, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'écouter un reportage qui avait été réalisé en mars 2016, donc peu de temps avant l'adoption de cette loi. Bonne écoute.
Mais c'est très bien qu'il y ait le salon de l'érotisme. Mais là aussi, c'est la distance entre le discours qui est tenu pour nous, les prostituées, et ce qui se met en place socialement, c'est, je veux dire, c'est une distance infinie. Et finalement, dans le sex appeal comme ça, qui s'est démocratisé, et cette assignation à être sexy pour les femmes, c'est sans doute un vieux malentendu entre les putes et les autres femmes.
Ben, dis donc, ce serait pas le Canu Info ?
Si, si, et c'est un reportage. Alors que le feuilleton législatif visant à pénaliser les clients des prostituées dure depuis plus de 3 ans, Canu Info propose de revenir sur les législations qui encadrent les travailleurs et travailleuses du sexe en France depuis les années 70, ainsi que sur les mouvements de contestation que chaque nouvelle loi abolitionniste a provoqué depuis.
En tant que telle, la prostitution, elle n'est pas violente. Ce qui la rend violente, c'est les conditions d'exercice. Les conditions d'exercice, elles sont complètement dépendantes des lois prohibitionnistes qu'on subit actuellement. Donc les gens qui nous disent on va lutter contre la violence faite aux femmes, la première des choses pour lutter contre les violences, c'est de dépénaliser le travail sexuel.
Vous pourrez entendre des entretiens avec des prostituées, un chercheur en sciences sociales ou encore des slogans de manifestation tirés des journaux télévisés, de l'émission Infrarouge sur le travail du sexe de novembre 2014 ou encore du formidable web documentaire de rue 89 Lyon. Bonne écoute sur Radio Canu.
On passe mon temps à m'appeler sale pute,
les gens qui passent.
Alors moi, pour résoudre le problème, je m'appelle moi-même pute. Moi, je suis une pute, voilà. Il n'y a que le mot sale qui me dérange, j'ai déjà gagné la moitié, donc le mot pute ne me dérange pas, il n'y a plus que le mot sale qui me dérange. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est des dénominatifs qui ne me concernent même pas. Moi, je fais mon métier, qui est la prostitution. On m'appelle travailleuse du sexe, on m'appelle personne prostituée, on m'appelle putain, on m'appelle pute, on m'appelle comme on veut, ça m'est égal.
Les différents systèmes de législation sur la prostitution, d'après Sonia, prostituée à Bruxelles.
Il y a plusieurs systèmes. Il y a les systèmes réglementaristes, qui est un système qui réglemente la prostitution, comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne, comme en Suisse. Donc c'est réglementé. Il y a des lois qui sont faites pour la prostituée. Et les prostituées ont des devoirs et des droits, comme tout être citoyen. Il y a le système abolitionniste, qui est un système qui est pour l'abolition, mais de toute réglementation sur la prostitution. Et ce système-là, c'est comme ici en Belgique, c'est comme en France, c'est un système... Les prostituées peuvent exister, mais elles n'ont qu'un droit. Sauf le droit de payer des impôts. Parce que ça, c'est un droit qui reste. Parce qu'on travaille. Et même si c'est un travail illégal, théoriquement, on doit payer des impôts. Et puis, il y a le système prohibitionniste, qui est un système qui prohibe totalement la prostitution et qui n'accepte aucune forme de prostitution. Totale. Voilà, ça c'est les trois grands systèmes en vigueur.
La France, qui a été le pays d'origine du réglementarisme avec ses maisons closes, change d'orientation en 1946 et adopte un régime abolitionniste. À partir de 1958, la police peut mettre des contraventions pour racolage.
À Lyon, en 1975, de nombreux hôtels de passe ferment, ce qui contraint les prostituées à exercer dans la rue. La répression policière est forte. Les prostituées se voient infliger de nombreux PV pour racolage, font face à de nombreuses et fréquentes rafles et mises en garde à vue, mais aussi à l'augmentation du nombre d'agressions.
Parallèlement à cela, on voit proposer à l'ordre du jour une loi qui sanctionnerait de peine de prison la récidive de racolage. Sous le mot d'ordre, nos enfants ne veulent pas que leur mère aille en prison. Une centaine de prostituées de Lyon se rassemblent et occupent l'église Saint-Nizier, alors au cœur du quartier traditionnel de la prostitution, pour se faire entendre.
Puis maintenant, c'est le cri qu'on a lancé sur les radios, c'est le cri qu'on lance dans les télévisions, c'est le cri qu'on lance partout, que toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous églises parce que nous aider, parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant ce n'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. et que Mme Françoise Giroud refuse de s'occuper de nous parce qu'elle ne nous considère pas comme des femmes. Elle nous considère comme des prostituées, donc des putains, donc rien du tout. Et on nous dit que c'est M. Poniatowski qui doit s'occuper de nous. M. Poniatowski, pour l'instant, ne veut pas s'occuper de nous parce que ce n'est pas non plus son problème. Alors c'est le problème de personne. Alors on voudrait que quelqu'un prenne la parole et nous mettre au courant de, en nous disant à qui ça regarde.
On ne sortira pas tant qu'on n'a pas obtenu des résultats.
Très haute. En étant femme et mère, et pas en étant un sexe et un bas-ventre que les types attendent dehors pour leur sauter dessus.
En 1975, l'église de Saint-Mizier, occupée à Lyon par les prostituées, est rapidement évacuée par la police. Le mouvement ne permettra aucune traduction concrète dans la loi.
En mai 2002, le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, obnubilé par la thématique de l'insécurité, annonce clairement que pour lui, la prostitution et les problèmes qui l'accompagnent, comme par exemple les nuisances dont certains riverains se plaignent, ont à voir avec la délinquance et doivent donc être traités comme tels. Le ministre annonce alors que la loi qu'il prépare sur la sécurité intérieure comportera des dispositions autorisant la reconduite à la frontière des prostituées étrangères coupables de racolage, puis que le délit de racolage passif retiré du code pénal en 1994 sera réintroduit en exposant ses auteurs à des peines de prison et à de fortes amendes.
Isabelle, travailleuse du sexe à Toulouse.
La loi qui pénalise le racolage est venue en même temps qu'une grande inquiétude au niveau de mouvements migratoires. Donc la loi sur le racolage, et ça peut se constater sur le terrain, sert vraisemblablement à limiter les mouvements migratoires de personnes. Et c'est plus ça qui inquiète le politique à l'heure actuelle, d'ailleurs, que la victimisation ou l'exploitation, malheureusement.
Confrontées en 1975 et 2002 à la répression policière, les prostituées ont en ces deux occasions tenté de se mobiliser. Si lors de leur premier mouvement de protestation, elles ont pu disposer du soutien actif de militantes abolitionnistes et féministes malgré de profondes divergences de vision de la prostitution, une telle alliance n'a pu être conduite 27 ans plus tard, en 2002.
Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité lyonnaise, mais la ville de Lyon met en scène de manière exacerbée des processus qu'on retrouve, ou des méthodes qu'on retrouve ailleurs.
Lilian Mathieu, chargé de recherche au CNRS.
La ville de Lyon a effectivement anticipé en 2002 la loi sur la sécurité intérieure, donc la pénalisation du racolage, en interdisant l'activité des prostituées dans le centre de la Presqu'île, quoi, le nord du deuxième arrondissement et le sud du premier, là qui était un peu le quartier traditionnel de, pas le seul, mais le quartier traditionnel de prostitution depuis le Moyen-Âge. La rupture, elle intervient à l'été 2002, où le maire de Lyon prend tout seul la décision d'interdire le racolage dans la Presqu'île, avec consigne qui est donnée par les policiers aux prostituées d'aller au sud de Perrache, de l'autre côté des voûtes. Bon, ce qu'elles font. Le problème, c'est que elles s'équipent donc de camionnettes pour ne plus être visibles et être soumises à la pénalisation pour racolage. Et leur activité, elle est concentrée dans cet espace. C'est-à-dire, la confluence, c'est quoi? C'est le marché-gare, c'est la prison, la piscine, la patinoire Charlemagne et des logements de couches plutôt populaires et vieillissantes. Et pas d'activité de loisirs véritablement. Donc, quartier de relégation. Donc, on peut se permettre de concentrer les prostituées là. Le problème, c'est quand il y a la biennale d'art contemporain, que les gens prennent le tramway pour se rendre à la pointe de la Presqu'île, ça fait désordre de traverser toute cette haie de camionnettes. Et puis, c'est aussi que Confluence est destinée à devenir la nouvelle frontière de Lyon, c'est-à-dire un centre culturel, politique, économique, commercial, tout ce que vous voulez. Donc, à nouveau, elles seront indésirables. C'est-à-dire que on voit comment la politique de la prostitution suit la politique urbaine de la ville. Des couches favorisées, de classes moyennes favorisées qui sont destinées à peupler les quartiers gentrifiés. C'est ça la gentrification, les anciens quartiers populaires qui sont réhabilitées pour en faire ressortir le patrimoine. Les quartiers d'activités touristiques, d'activités commerciales, les quartiers d'affaires, et puis les fractions les plus dominées de la population, qui sont les prostituées, qui sont aussi les Roms, qui sont les clodos, qui sont tous les gens qui font tache dans le paysage. Donc on est dans cette logique-là qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes, hein, des logiques de prestige et de moralisation de l'espace urbain.
En 2011, puis en 2013, un groupe de parlementaires socialistes formule une proposition de loi visant à pénaliser les clients de prostituées.
En février 2016, cette loi n'est toujours pas passée. La principale ligne des arguments des abolitionnistes de gauche prétend protéger les femmes présentées comme uniquement victimes du système de prostitution. De plus, certains mouvements féministes abolitionnistes souhaitent la mise en place de telles lois pour lutter contre la marchandisation des corps. C'est le cas des fémènes.
Prostituées en tant qu'elles, et voilà, nous luttons contre un système où on a un client acheteur, un proxénète vendeur et la femme au milieu qui est la marchandise. Voilà.
Témoignage de travailleuses du sexe.
C'est pas un choix proprement dit, le premier jour. Parce qu'aucune petite fille de 10 ans va dire je veux être prostituée, ça n'existe pas ça. Ou alors, je connais pas si ça existe. Mais c'est un ultimatum qui se produit dans la vie de quelqu'un. On n'a plus de choix, donc on n'a que ce choix-là. Mais si ça ne va pas, moi j'ai vu des filles arriver qui repartaient. Elles restaient à moi, deux mois, me disaient je ne peux pas, je peux pas, moi je peux.
J'ai toujours dit que pour moi, la prostitution pour une femme qui déteste faire ça, c'est effectivement une des pires choses qui peut arriver à quelqu'un.
Les femmes ou les hommes ou les trans prostituées qui le choisissent sont des gens qui ont un métier, point. On ne parle pas des femmes qui sont des victimes dans cette histoire, on parle de gens qui ont une situation. Pour ce qui est des autres qui le subissent, il y a effectivement des femmes qui le subissent, il y a des hommes qui le subissent, il y a des trans qui le subissent, il y a même des enfants qui le subissent, on n'arrête pas d'en parler.
Face à la consolidation de l'arsenal abolitionniste, les luttes de prostituées reprennent la rue, comme en 1975 et en 2002.
Cela va encore éloigner les travailleurs du sexe des lieux où il y a du monde. Cela va les exposer beaucoup plus aux agressions. Cela va accroître leur précarité, leur vulnérabilité. Et cela constituera une entrave à leur accès aux droits et à la justice.
Sarah Marie, membre du STRAS, syndicat du travail sexuel, en manifestation 2011.
C'est une loi qui est menée par un lobby féministe d'arrière-garde qui conçoit le travail sexuel comme une violence en soi, alors que la violence vient justement des discours à l'encontre des travailleurs du sexe qui considèrent que le travail sexuel, ce serait vendre son corps. Pour les travailleurs du sexe, dire que le travail sexuel, c'est vendre son corps, c'est une violence parce que cela est faux. Ils fournissent un service sexuel, ils ne vendent pas leur corps.
Quand on est plus précarisé parce qu'on doit se cacher, etc., c'est beaucoup plus difficile pour nous d'imposer nos conditions, notamment sur le port du préservatif, notamment sur certaines pratiques.
Demandons au gouvernement qu'il légitime les travailleurs du sexe comme un travail normal, que nous pouvons payer nos impôts, que nous pouvons déclarer notre revenu, que nous pouvons toucher un jour la retraite.
La retraite, on la veut, même s'il faut sucer des queues.
Dans le combat contre la prostitution, il y a un combat pour le contrôle de la sexualité des gens, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Parce que nous, on est aussi l'épouvantail. Parce que grâce à nous, justement, on dit aux autres femmes qui auraient trop envie d'être libérées, oui, mais attention, hein, si vous devenez vraiment une pute, on va vous démolir, quoi. Donc on contrôle la sexualité des femmes. Mais on dit aussi aux hommes, les femmes que vous allez payer, c'est dans la boue que vous allez devoir les baiser. Que tirer un coup tranquille quand ils en ont envie ne soit pas une chose trop agréable et facile. Que leur sexualité doit rester problématique et culpabilisante. Qu'ils jouissent en payant s'ils veulent, mais alors qu'ils côtoient la pourriture, la honte et la misère. C'est aussi leur manière de dire, attention, il y a les mères et il y a les putes.
Terminer ce Canu Info, on vous propose la rediffusion d'un reportage sur les gaz lacrymogènes qui compile les sons d'une vidéo réalisée par Alain Bartinelli ainsi que les analyses qui sont faites par Anna Feigenbaum dans un article publié dans Le Monde Diplomatique. Bonne écoute.
1988, bande de Gaza. L'armée israélienne lance de larges quantités de gaz lors d'affrontements avec la population. L'ONU recense plusieurs morts et des dizaines de cas de fausses couches. Le fabricant américain du gaz est forcé de suspendre ses ventes à Israël. 2011, au Chili, du gaz est utilisé pour disperser des manifestations. Des scientifiques alertent alors sur les risques pour les femmes enceintes. Le gouvernement est obligé d'arrêter temporairement son utilisation. 3 ans plus tard, à Bahreïn, une ONG recense 39 morts en 3 ans et la multiplication des cas d'asthme. En cause, selon elle, le gaz utilisé allègrement par le régime à la suite de soulèvements de la population. La Corée du Sud et la France, qui en fournissent une partie, doivent suspendre leurs exportations. Ces exemples sont loin d'être exhaustifs. À plusieurs reprises, la diffusion du gaz lacrymogène a été sérieusement remise en question, voire stoppée temporairement. Doit-on en conclure que son usage global est en baisse ? Absolument pas. L'industrie de ce que l'on nomme les armes non létales affiche un taux de croissance de près de 10% par an. Elle prévoit même que ce marché va continuer à être hautement dynamique et à fort potentiel. Alors comment comment expliquer un tel succès chez les forces de l'ordre du monde entier? En fait, le gaz a trois propriétés majeures. 1. Il gêne physiquement les manifestants, ce qui les oblige à se disperser. 2. Il affaiblit psychologiquement, il fait peur, il démoralise. Et enfin 3. Dans l'immense majorité des cas, il est non létal. Par ailleurs, d'un point de vue logistique, une grenade lacrymogène est relativement peu chère et surtout beaucoup plus facile à déployer qu'un canon à eau, par exemple. On y a ainsi très facilement recours, avec des grenades donc, ou en spray. Il est parfois aussi mélangé à de l'eau, ou plus récemment en Israël, dispersé à l'aide de drones. Au XXe siècle, les premiers à avoir expérimenté du gaz pour gêner l'adversaire pendant la guerre, ce sont les Français, en 1914. Un an plus tard, les Allemands font pareil, mais en bien pire et à plus grande échelle. C'est là qu'apparaît le gaz moutarde, qui fait des dégâts considérables dans les tranchées. Mais à la fin de la guerre, les fabricants d'armes doivent trouver de nouveaux débouchés pour leurs innovations.
Les années 1920 annoncent l'âge d'or du lacrymo. Capitalisant sur l'essor des armes chimiques durant la guerre, Amos Fries, un général multimédaillé, convertit ce venin en outil politique à usage quotidien. Grâce à un lobbying acharné, il parvient à modeler une nouvelle image du gaz lacrymogène, assimilé non plus à une arme toxique, mais à un moyen inoffensif de préserver l'ordre public. Il rallie à sa cause un large réseau de publicitaires, de scientifiques et d'hommes politiques chargés de promouvoir dans les médias ces gaz de guerre pour tant de paix. Dans la presse économique de l'époque, on peut ainsi lire qu'Amos Fries a étudié de près la question de l'usage du gaz et des fumées pour affronter les foules et les sauvages. Il est sincèrement convaincu que lorsque les officiers de police et les administrateurs coloniaux seront familiarisés avec le gaz en tant que moyen de maintenir l'ordre et de protéger le pouvoir, les désordres sociaux et les insurrections sauvages diminueront jusqu'à disparaître complètement. Les gaz lacrymogènes paraissent admirablement appropriés pour isoler l'individu de l'esprit de la foule. L'un des avantages de cette forme adoucie de gaz de combat tient au fait que, dans son rapport à la foule, l'officier de police n'hésitera pas à s'en servir. Cet argumentaire restera le même au fil des années. On vante les vertus répressives du produit, tout en célébrant son caractère indolore, ce qui permet en apparence de rendre son usage acceptable contre des foules désarmées. Le gaz s'évapore, la police peut enfin disperser une manifestation avec un minimum de publicité négative, sans laisser dans son sillage du sang et des ecchymoses.
Anna Feigenbaum est spécialiste des mouvements sociaux. Dans son dernier ouvrage, publié en 2017, elle retrace un siècle d'évolution du gaz lacrymogène.
Au départ, ça a surtout servi à réprimer les manifestations des travailleurs, puis les soulèvements dans les colonies.
Depuis 1993, l'ONU interdit l'usage du gaz lacrymogène pendant la guerre, car il est considéré comme une arme chimique. Mais cette interdiction ne concerne pas la vie civile. Or, depuis une décennie, le gaz y a pris beaucoup de place.
I think there are about three sort of social phenomena that are going on that are leading to this. The first is that we're seeing continued social.
Je crois qu'il y a trois phénomènes sociaux qui ont mené à ça. La première raison, c'est que nous assistons à une agitation sociale continue. Il y a eu une grosse vague à partir de 2008 après la crise financière, puis des protestations mondiales depuis 2011. Un autre facteur qui a contribué à l'augmentation des gaz lacrymogènes est la question des migrants. De nombreuses personnes tentent de traverser les frontières, mais ils le font dans des zones où il n'y a pas de vraies barrières physiques, et donc le gouvernement utilise ces armes non létales dans ce que j'appelle un contrôle aux frontières ad hoc. La troisième raison est liée au développement des fabricants, que ce soit dans des pays déjà bien connus comme les États-Unis, Israël ou la France, mais aussi dans d'autres pays. Maintenant, la Corée du Sud est sur le marché, la Chine se développe. C'est donc devenu un marché mondial. Il est de moins en moins régulé. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas savoir quelle quantité de gaz lacrymogène est utilisée et où il est.
Le problème, c'est qu'à le croire inoffensif, certains peuvent avoir tendance à en abuser. En 2013, lors du mouvement de protestation Place Taksim, Erdogan a été surnommé « Chimique Type » ou « Gazman ». En 20 jours, il aurait tiré un nombre de grenades d'habitude équivalent à une année de stock. Au Kenya, en 2015, des enfants qui protestaient contre la destruction de leur cour de récréation se sont retrouvés pris dans des nuages de gaz. Et dans les territoires palestiniens, une étude de l'université de Berkeley montre que depuis 2015, la population de plusieurs camps de réfugiés a été exposée au gaz israélien 2 à 3 fois par semaine en moyenne. Une échelle sans précédent selon l'étude, qui note que le gaz ne sert plus seulement comme arme de défense, mais aussi pour attaquer et rentrer dans un camp par exemple. Enfin, la France n'est pas épargnée par les critiques. À Notre-Dame-des-Landes, 10 000 grenades lacrymogènes auraient été tirées en 10 jours. Mais alors, en mesure-t-on vraiment tous les risques? Il faut déjà savoir de quoi on parle. Ce qu'on appelle gaz lacrymogène regroupe en fait différentes substances. Sans trop rentrer dans les détails, l'un des produits les plus utilisés aujourd'hui est le CS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un gaz, mais d'une forme solide, une poudre diffusée lors de l'explosion d'une grenade. On sait tous à peu près ce que ça fait au moment où on le respire. On a les yeux qui piquent, des larmes qui coulent, des difficultés à respirer et parfois envie de vomir. Dans la majorité des cas, pour une personne en bonne santé, les symptômes se dissipent dans la demi-heure. Mais y a-t-il un risque pour la santé à plus long terme? On a essayé de le savoir, mais le truc, c'est que la police a refusé de nous accorder un entretien. La gendarmerie a aussi décliné notre demande d'interview quant aux fabricants d'armes.
Bah vous connaissez même pas mes questions.
On répondra pas au sujet.
Vous voulez pas répondre au sujet?
Bah voilà.
En réalité, on manque d'études sur le sujet.
Sven-Erik Jort, professeur en anesthésie à la Duke University aux États-Unis. Nous ne savons pas si les blessures du poumon peuvent ensuite se transformer en problèmes respiratoires. Ce qui peut se passer est que les gens respirent des gaz irritants, comme lors d'accidents industriels, dans les situations de pollution ou chez les fumeurs. Cela pourrait aussi provoquer des allergies. Et cela peut potentiellement causer des cancers, par exemple. En fait, tout dépend du niveau d'exposition. Mais des gens qui ont déjà de l'asthme ou des problèmes cardiovasculaires sont particulièrement concernés par ces risques.
Ça peut être un problème pour les populations exposés sur de longues périodes, comme lors des révolutions arabes ou dans les camps palestiniens mentionnés tout à l'heure, qui sont en plus des zones confinées. Enfin, notons qu'il y a aussi des risques de pollution des sols et des eaux, une fois que tout retombe.
Le lacrymo s'est imposé comme une arme multifonction, capable non seulement de stopper une manifestation, mais aussi de saper toute forme de désobéissance civile. Dans aucun pays, il n'existe d'obligation légale de recenser le nombre de ses victimes. Aucune obligation non plus de fournir des données sur ses livraisons, ses usages, les profits qu'il génère ou sa toxicité pour l'environnement. Alors que l'usage de toutes les armes chimiques est interdit par les traités internationaux dans le cadre des guerres, les forces de l'ordre restent, au niveau national, plus que jamais autorisées à déployer du gaz toxique sur les individus ou les cortèges de leur choix. L'acceptation quasi unanime de cette incohérence contribue pour beaucoup à la florissante prospérité de l'industrie du maintien de l'ordre et aux larmes des contestataires du monde entier.
Il est 19h58 sur Radio Canu, c'est la fin de ce Canu Info du vendredi un peu spécial et tout de suite l'heure de Noise Pollution.